FB。
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour. En 2015, les pays membres de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, soit presque tous les pays de la planète, se sont fixés un objectif commun. Protéger 30% des zones terrestres et marines de la planète d'ici à 2030. C'est évidemment une bonne idée à l'heure où la biodiversité s'effondre à une vitesse vertigineuse. La question est comment y parvenir. Sur le continent africain notamment, qui abrite au minimum un quart des espèces de mammifères, un cinquième des oiseaux et un sixième des végétaux de la planète. Et bien dans ce domaine, une ONG se taille, si je puis dire, la part du lion. African Parks administre 22 parcs dans 12 pays africains sur un espace de 20 millions d'hectares. Et ses dirigeants ne comptent pas s'arrêter là. Il est donc intéressant de s'interroger sur leur méthode, sur leurs résultats, sur leur financement. Le journaliste néerlandais Olivier Van Bemen a enquêté pendant 4 ans sur African Parks. Il est notre invité.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour Olivier Van Bemen.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous venez de publier Au nom de la nature, enquête sur les pratiques néocolonialistes de l'ONG African Parks. C'est aux éditions Rue de l'Échiquier. Je signale tout de suite aux auditeurs qu'il y a 2 livres à gagner. Alors soyez avec nous jusqu'à la fin de l'émission et vous aurez peut-être une chance de gagner un livre. Alors bon, on entend évidemment dans le titre que vous êtes assez critique avec cette ONG. Vous allez nous expliquer pourquoi, mais d'abord j'aimerais que vous nous expliquer comment est-ce que vous avez eu l'idée de faire cette enquête.
En fait, j'étais en train de faire un reportage en Zambie et c'était un reportage un peu anecdotique sur 2 propriétaires de lodges néerlandais qui avaient touché une subvention de l'État néerlandais pour créer un camp de safari dans une zone éloignée du parc national Kafue. Et bon, ils se sont disputés, ils étaient devenus l'ennemi l'un de l'autre. Le côté sérieux de ce reportage, c'était que l'État néerlandais a vu cette subvention en provenance d'un fonds de développement comme une grande réussite, tandis que sur le terrain, il paraissait que c'était pas du tout une réussite. Mais donc, ces 2 businessmen néerlandais ne pouvaient plus s'entendre. Ils étaient d'accord sur une seule chose. Ils voulaient vraiment que African Parks allait reprendre la gestion du parc national de la Kafue. C'est un parc immense en Zambie. Et pour moi, c'était, j'avais jamais entendu parler de African Parks. Je pense que j'ai un intérêt plus que la moyenne à la nature. Je m'intéresse à tout ce qui est nature, conservation.
Et à l'Afrique.
Et à l'Afrique. Mmh. Et en plus, c'était une organisation cofondée par un compatriote à moi, par un Néerlandais qui s'appelle Paul van Vlissingen. Ils étaient soutenus par des fonds néerlandais, européens aussi, français aussi. Et j'étais assez stupéfait. Pourquoi je les connais pas? Qui sont-ils? Que font-ils?
Voilà, donc, ça a piqué votre curiosité.
Oui, j'étais fasciné.
Et alors vous, quand vous avez la curiosité piquée, ça donne une enquête de 4 ans. Voilà. Une enquête difficile. Hein. Comment est-ce que vous avez travaillé?
Oui, c'était difficile. En fait, ma précédente enquête, c'était sur le groupe brassicole Heineken.
Oui, on vous avait reçu à cette occasion.
Oui. On me pose souvent la question, est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est dangereux même d'enquêter sur une multinationale puissante comme la Heineken? Et honnêtement, c'était difficile quand même, mais je ne me suis pas fait menacer ou... oui, c'était quand même dans les règles. Mais avec African Parks, c'était différent. Au début, au bout d'un moment, ils ont rompu toute communication, tandis qu'on était en train de préparer une visite en leur accompagnement dans un parc au Rwanda. Mais du jour au lendemain, la directrice de la communication Oui, je pense que c'était très intéressant de voir comment...
On voit les échanges que vous avez eus avec la direction.
Oui, tout à fait. Et donc, oui, je pense qu'ils voulaient me décourager, qu'ils espéraient, quand je n'ai pas accès au parc, qu'il n'y a pas grand-chose à enquêter. Mais moi, ça m'a quand même motivé de creuser plus, parce qu'il donnait vraiment l'impression qu'il cachait quelque chose, ce qui était plutôt vrai aussi. Et donc,
alors, en résumé, vous avez interviewé combien de personnes en 4 ans ?
J'ai interviewé près de 300 personnes. Donc,
et vous êtes allé dans combien de parcs ?
Je suis allé dans 5 parcs, 6 pays. J'ai enquêté beaucoup.
Et vous avez enquêté donc auprès des gens dans les parcs, auprès des salariés même de African Parks, auprès d'anciens dirigeants. Il y a vraiment un éventail de personnalités très larges.
Les gardes sont très importants, les gardes de parc. Il y a les villageois, les riverains du parc, les chefs coutumiers, il y a les hommes politiques. C'est très important d'avoir une bonne impression de tout ce qui se passe. Et aussi les occidentaux qui sont concernés, les bailleurs de fonds. Donc j'ai vraiment voulu avoir... différentes perspectives.
Après, on va rentrer dans le fond, mais je pense que c'est quand même important de s'attarder un peu sur votre travail, parce qu'à la fin de votre livre, vous expliquez que vous avez proposé à African Parks de relire le livre, de donner son avis, etc. Et en fait, ça s'est très mal passé.
Oui. Bon, African Parks était très fâché du livre. Il pensait qu'il y avait des conclusions erronées. D'abord, ils m'ont menacé, si jamais leur bailleur de fonds se retirait à cause de mon travail, ce sera moi qui est responsable et mon éditeur néerlandais. Et ils ont littéralement dit, ce sont des dédommagements qui peuvent être dans les multimillions d'euros. Ils ont, avant la sortie du livre, ils ont encore une fois, ils m'ont menacé que c'était peut-être contraire à la loi et ils excluaient pas de me poursuivre en justice. En plus, ils ont fait une réunion dans laquelle il y avait deux directrices en provenance d'Afrique du Sud, un avocat et un autre directeur européen qui sont venus. Donc à quatre, ils m'ont dit comment ce livre n'était pas correct et ils voulaient en fait que j'allais le réécrire, soumettre à leur approuvement et ensuite...
Alors, vous dites ça avec le sourire, mais malgré tout, donc, le livre est sorti. Je pense que c'était intéressant d'avoir quand même ce préambule pour bien comprendre que, en effet, votre enquête est plutôt à charge. Mais voilà le travail que vous avez accompli, ce qui quand même donne de la véracité et de la crédibilité à vos propos. Alors, un peu d'histoire, rapidement, comment a commencé l'histoire d'African Parks ? Vous le disiez, c'est un compatriote, un néerlandais qui l'a créé.
Oui, qui a travaillé ensemble avec 4 Sud-Africains.
Et c'était au début des années 2000.
Oui, c'est ça. Et j'ai parlé au le cofondateur néerlandais. Il est mort en 2006 déjà. J'ai parlé à son bras droit à l'époque, qui travaillait dans la même entreprise aussi, parce qu'il faut savoir, ce fondateur néerlandais, c'est un grand industriel des Pays-Bas, multimilliardaire, qui à la fin de sa vie a voulu faire quelque chose de bien pour le monde, pour l'humanité. Il voulait plutôt être souvenu comme un philanthrope que comme un homme d'affaires sans scrupules.
Oui, parce qu'il travaillait dans quel secteur ?
Bon, il était surtout dans le pétrole. C'était un grand conglomérat. C'était aussi, ils avaient des grands magasins en Afrique du Sud au moment de l'apartheid. Il n'avait pas respecté le boycott contre l'Afrique du Sud pendant l'apartheid.
Donc, sur la fin de sa vie, il se dit, je vais faire quelque chose de bien.
Oui. Il faut peut-être dire aussi, il faut souligner que c'est un grand chasseur. Il a chassé les grands animaux sauvages, y compris compris les éléphants en Afrique. Sa famille était amie avec la famille royale aux Pays-Bas. Eux aussi, le prince Bernard du Pays-Bas, c'était un grand chasseur. C'est d'ailleurs aussi un cofondateur du WWF, mais également un grand chasseur. Donc, ce qui est intéressant souvent parmi ces conservateurs, c'est que la raison d'être intéressé par la conservation de la nature, c'est aussi la peur qu'il n'y ait plus d'animaux à chasser. Donc, je pense que pour Paul von Vlissingen, c'était un élément important aussi. Donc, faire la fin de sa vie, c'était la nature. Il avait eu un rendez-vous avec Nelson Mandela, le président de l'Afrique du Sud de l'époque, en 99. Il en était très fier et il disait tout le temps que c'était lui qui l'avait encouragé à faire quelque chose pour la nature, parce que la plupart des États africains n'y avaient pas les moyens, c'était pas une priorité pour les États africains de préserver la nature. Donc c'est ça ce qui lui a donné l'idée, et en même temps il y avait quatre Sud-Africains qui venaient surtout de SANParks, c'est l'organisation étatique de l'Afrique du Sud de gestion de parcs, qui voulait mettre à pied un truc plus commercial, donc une organisation plus commerciale. Et ils cherchaient quelqu'un avec de l'argent, et donc ils avaient trouvé Paul von Vlissingen. Et lui, comme il avait l'argent, il était devenu le maître aussi, le patron de toute l'organisation. Donc c'est ça le début.
Ça, c'est le début de l'histoire. Bon, alors Paul von Vlissingen, je le dis moins bien que vous, mais il décède en 2006. Et là, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre avec un mantra qui reste le même, hein, qui est « business approach ». To conservation, c'est-à-dire c'est vraiment une business approach. Alors, aujourd'hui, quelle est l'ampleur d'African Parks?
Oui, bon, je reviens à votre question.
Oui, c'est juste parce qu'il faut qu'on avance un petit peu.
Oui, non, je comprends, mais juste un truc qui est important à dire. Le bras droit de Paul von Vlissingen, il avait dit on fait ce truc-là parce que ces Noirs ne peuvent pas gérer et financer les parcs. Donc ça, c'est le point de départ d'African Parks. Les Noirs n'en sont pas capables. Donc, cette business approach, l'approche commerciale de la conservation, c'est vrai que c'est devenu une grande organisation, 23 parcs maintenant, 13 pays, donc c'est vraiment... et leur modèle est vu comme le modèle à suivre, donc ils ont vraiment réussi sur ce plan-là.
Alors, qui finance aujourd'hui, en quelques mots, les grandes lignes?
Oui, c'est, en fait, il y a des organisations publiques, l'Union européenne d'abord. L'Union européenne est un très grand partisan de l'approche de African Parks. Ils ont au total plus de 140 millions d'euros. Donc, dans ce domaine-là, ce sont des sommes énormes. Il y a plusieurs milliardaires. Il y a Rob Walton, c'est l'héritier des fondateurs de Walmart, les grands magasins, les hypermarchés aux États-Unis. Il y a un copropriétaire de Chelsea, le club de football à Londres, Hans-Jürg Wyss, c'est un Suisse qui est un grand bailleur aussi. Il y a l'Agence française de développement qui a subventionné, il y a l'État allemand, donc il y a aussi... C'est intéressant. Il y a les gens connus, les célébrités.
Oui. Alors il y a notamment le prince Harry, qui a été président d'African Parks pendant 6 ans et qui aujourd'hui est membre du bureau.
Oui. Et en fait, membre du conseil, c'est comme une dégradation, mais au fait, c'est une promotion, parce que président, ça ne voulait pas dire grand-chose. C'était plutôt symbolique. Tandis que maintenant, il est partiellement responsable de la politique d'African Parks.
Alors, vous avez dit 13 pays, par exemple, parmi nos auditeurs, donc dans les pays francophones, African Parks est présent où?
Il y a le Bénin, il y a la République centrafricaine, il y a les deux Congo, il y a le Rwanda, ça, ce sont le Tchad aussi,
Et alors, ils ont de bons résultats quand même, globalement. Enfin, j'ai lu votre enquête, évidemment, mais aussi d'autres approches. Finalement, là où il y a des parcs, African Parks, la biodiversité remonte en flèche. Enfin, c'est en tout cas ce qui est dit. Notamment les Big Five, hein, ces fameux Big Five, c'est-à-dire les éléphants, les rhinocéros, les lions... il m'en manque deux.
Léopards, les buffles.
Voilà.
Oui. Bon, ils sont très forts en communication. Et il y a beaucoup de médias qui adorent ce message, qui reprennent ce message, parce que c'est bien aussi d'avoir un message d'espoir en provenance des parcs africains qui ont longtemps été pas en très bonne forme. Moi, à la fin de mon enquête, j'ai voulu savoir qu'en est-il vraiment de leurs résultats.
Il y a tout un chapitre dans votre
livre
là-dessus.
Oui. Et en fait, j'ai demandé à African Parks, est-ce que vous pouvez partager avec moi tous les recensements que vous avez faits dans vos parcs? Parce qu'il faut souligner, ils font les recensements des populations eux-mêmes. Ce sont pas,
il n'y a pas d'audit extérieur.
Non, pas pour les animaux. Donc, il faut déjà les croire. Ils ont peut-être intérêt à gonfler les chiffres. On ne le sait
Alors
pas.
Alors, comment vous avez fait pour savoir?
Moi, ce que j'ai pu faire, j'ai pris tous les rapports annuels depuis 2003, depuis qu'ils sont disponibles. Et ils montrent pas systématiquement tous les nombres de populations dans tous les parcs, mais souvent ils mettent des chiffres, des nombres, des espèces iconiques dans un tel parc. Donc j'ai pris tous ces nombres, tous ces chiffres, je les ai comparés à leurs propres
données.
Leurs propres citations là-dessus. Et j'ai remarqué que souvent, ils disent que, par exemple, il y a un parc au Congo-Brazzaville, au Djala, ils disent que sous nous, ça va très bien. Il y a
notamment les éléphants.
Oui. Et apparemment, selon leurs propres chiffres, ils ont perdu 30 à 50% des éléphants forestiers dans ce parc. Selon leurs propres chiffres, ils ont perdu quasiment 2/3 des chimpanzés, quasiment 2/3 des gorilles dans ce parc aussi. Donc, ils parlent d'un sanctuaire pour la nature, mais en réalité, et j'ai vu la même chose au Tchad, j'ai vu quelque chose de semblable à la Garamba aussi.
Mais alors, la question, c'est quand même, est-ce que ce ne serait pas pire s'il n'était pas là?
Moi, je me suis posé la question aussi. Je pense que dans certains parcs, il y aurait sans doute moins d'animaux si African Parks n'était pas là. Le souci, c'est que la solution de African Parks, on va sans doute en parler, la militarisation de la conservation de la nature, c'est pas durable. Le modèle d'African Parks, c'est basé sur... les riverains sont considérés comme des ennemis potentiels.
Alors, on va faire une petite pause, parce que justement, les méthodes d'African Parks, nous allons en parler dans un instant. Mais d'abord, on va faire une petite pause, parce qu'on a eu déjà beaucoup d'informations, pour laisser place à la musique, et pas n'importe laquelle, mesdames et messieurs. Pour votre plus grand plaisir, voici les Beatles sur RFI.
Were taken by surprise. zapped him, marble zapped him right between the eyes.
All the children sing.
Hey, Bungalow Bill, what did you kill?
His mommy petted him.
If looks could kill, it would have been us instead of him.
All the children sing.
Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. Hey, Bungalow Bill, was it a kill?
C'était les Beatles, le titre, allez je le dis quand même si vous avez certainement reconnu The Continuing Story of Bungalow Bill sur RFI.
C'est pas du vent sur RFI. Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Nous parlons des enjeux de la conservation de la nature en Afrique avec le journaliste Olivier Van Bemmen qui a enquêté pendant 4 ans sur l'ONG African Parks qui gère 23 parcs en Afrique dans 13 pays. Cette conservation a une histoire que le chercheur Guillaume Blanc étudie de près. Dans son livre « La nature des hommes, une mission écologique pour sauver » entre guillemets l'Afrique, publié aux éditions de La Découverte, il s'est attardé sur une conférence qui a eu lieu le 5 septembre 1961. Une centaine d'hommes se réunissent à Arusha, en Tanzanie, pour lancer un grand projet qui n'a qu'un seul but, aider l'Afrique à sauver sa nature. Mais de quelle nature parle-t-il ? Écoutez ses explications.
Quand ils parlent de la nature dans cette conférence, en fait, leur objectif est très clair. Il faut que la fin de la colonisation ne signe pas la fin des parcs qu'ils ont créés. Et alors quand je dis « il », c'est là où j'ai essayé de décortiquer ça dans le livre, ça va dépendre de qui en fait. La nature va être définie selon, de manière différente, selon ceux qui en parlent. Et ceux qui organisent cette conférence, donc qu'on appelle des experts gentlemen, donc c'est vraiment eux, ils circulent entre Londres, Paris, etc. Pour eux, c'est le bestiaire africain. Ce dont ils rêvent, je pense que l'image, tout le monde l'aura, c'est l'Afrique du Roi Lion. Ou l'Afrique du Serengeti qui va être préservée, des milliers de gnous qui migrent chaque année pour aller dans une Afrique sans frontières. C'est l'Afrique des oasis, des forêts dites primaires. En fait, c'est là où il faut, si on remonte à la colonisation, les Européens, quand ils tentent l'aventure coloniale fin 19e, ce qu'ils laissent derrière eux, c'est une nature européenne radicalement transformée par l'urbanisation, l'industrialisation. Et ils vont être persuadés de la retrouver en Afrique. Et une fois qu'ils arrivent en Afrique, eh bien, les colons vont tout simplement être incapables de reconnaître que les dégâts écologiques auxquels ils assistent, dont vous venez de parler, sont de leur propre fait. Et plutôt que de blâmer le capitalisme colonial, eh bien, ils vont blâmer les Africains et donc commencer à les expulser des parcs ou au moins à leur empêcher de cultiver la terre. Et donc, cette nature dont ils rêvent, c'est une nature débarrassée de ses habitants. Donc, on a 140 hommes à peu près, donc que des hommes, qui eux nous viennent de métropole. Ensuite, on a des dirigeants africains, donc par exemple Julius Nyerere de Tanzanie, qui se fait porte-parole des nouveaux pays indépendants. Et puis, on a des colons qui sont en train d'être mis au chômage par les indépendances et qui sont en train d'être reconvertis comme experts de terrain. Et le quatrième groupe, c'est le groupe dont tout le monde parle, mais qui est absent, ce sont les paysans africains qui représenteraient le problème auquel faire face. Et donc, cette stratégie qui va être définie, eh bien, c'est comment aider l'Afrique à s'aider elle-même pour sauver la nature. Et tout va partir d'Arusha pendant 15 à 20 ans.
Alors, il y a un manifeste qui conclut cette conférence, s'appelle donc le manifeste d'Arusha, que vous citez dans votre livre, qui est signé donc de la main des 3 représentants du Tanganyika, qui est l'ancien nom de la Tanzanie, le Premier ministre Julius Nyerere, le ministre de la Justice Abdallah Saïd Fundikira et le ministre des Terres, Tewa Saïd Tewa. Alors, leur manifeste, je vais peut-être vous laisser le lire parce que c'est quand même assez édifiant.
La survie de la faune sauvage est un sujet de grave préoccupation pour nous tous en Afrique. Non seulement ces créatures sauvages au milieu des lieux sauvages qu'elles habitent sont d'une importance source d'émerveillement et d'inspiration, mais elles font aussi pleinement partie de nos ressources naturelles, de nos moyens de subsistance et de notre futur bien-être. En acceptant la tutelle de notre faune sauvage, nous déclarons solennellement que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir aux petits-enfants de nos enfants qu'ils pourront apprécier ce riche et précieux patrimoine. La conservation de la faune et des lieux sauvages requiert un savoir spécialiste, une main-d'œuvre formée et de l'argent, et nous attendons des autres nations qu'elles coopèrent pour mener cette tâche importante. Son succès ou son échec concerne autant le continent africain que le reste du monde.
Olivier Van Beemen, cette conférence a donc eu lieu en 1961. Qu'est-ce qui a changé depuis ?
Bon, il y a quand même, on est dans une autre époque, les États africains sont bien indépendants, ils sont théoriquement, oui, ils sont les maîtres des lieux chez eux. En matière de la conservation, il y a quand même beaucoup de continuité. Et je pense que African Parks, l'organisation dont j'ai fait mon investigation, est dans cette même lignée toujours.
Alors parlons de cette méthode. Donc la méthode d'African Parks, c'est quoi ?
En fait, leur modèle ça s'appelle gestion déléguée. Donc ça veut dire que African Parks reprend tout. Je l'ai dit, hein, African Parks, à la base, c'est la pensée que les Noirs ne savent pas financer et faire la gestion des parcs. Donc, c'est aux Européens, aux Occidentaux de le reprendre, aux Sud-Africains. Et African Parks prend beaucoup de pouvoir qu'on dit régalien, hein, qu'en Europe on ne donnerait pas si facilement à une organisation privée.
Alors donc, vous avez interviewé le PDG Peter Van Aert dans votre livre, et alors lui il dit notre méthode c'est un transfert complet donc de la part des États de la gestion avec un contrat à long terme, en général ce sont des moyennes des contrats de 20-25 ans et des revenus qui reviennent au parc.
Oui. Donc, c'est African Parks qui décide tout. Donc, ils peuvent faire des arrestations, c'est la sécurité, c'est African Parks, le droit d'entrée, c'est African Parks. Quand moi, j'ai voulu aller dans un parc en RDC, en République démocratique du Congo, c'est pas à une autorité locale que je vais demander la permission, mais c'est au siège à Johannesburg que je dois demander la permission. Donc, c'est vraiment, ça va même jusqu'au contrôle de la frontières, certains parcs contrôlent de l'espace aérien, ça va vraiment
Alors quel rapport avec les populations locales ? Parce que finalement c'est l'une des clés pour préserver à long terme la biodiversité, c'est de le faire avec les communautés locales et pour les communautés locales, pour lesquelles du coup ça devient aussi un sujet quotidien.
Oui. African Parks dit souvent que les populations sont prioritaires, mais en réalité, c'est pas le cas. En fait, ce qui est prioritaire pour African Parks, c'est surtout la sécurité, donc la lutte contre les braconniers. Ensuite, c'est les translocations, les mouvements des animaux.
Alors, des transferts incroyables. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de girafe ou d'éléphant dans un parc, on en prend dans un autre parc.
Voilà.
Et alors, ils les transportent de façon...
De centaines, de milliers de kilomètres. Ouais. En avion aussi, souvent pour créer le Big Five. Parfois, même quand historiquement, le Big Five n'était pas présent dans un tel endroit, pour les touristes, c'est quand même très important d'avoir les Big Five parce que c'est...
Ça fait partie du modèle aussi, ça. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des parcs, il y a des logements souvent luxueux pour des touristes.
Oui. L'idée, c'est que les parcs deviennent autonomes. C'est très difficile. Ils réussissent... C'est seulement dans un parc qui réussissent cela. Mais donc, ces transferts d'animaux et la sécurité, là, ce sont vraiment les points forts, les priorités d'African Park. C'est là où l'argent des contribuables européens, par exemple, là où ça passe. Les projets communautaires, c'est vraiment le moins important pour African Park.
Et pourtant, quand on va sur leur site, on voit des belles photos avec des enfants qui sont à l'école.
on voit de l'énergie solaire qui est apportée dans les villages et tout ça. Vous avez enquêté, en fait, il y a plus d'images que de réalité.
Oui, oui. Et je pense que c'est d'autres, parce qu'on peut se poser la question si les projets de développement, c'est, de nos jours, c'est très critiqué, ça n'a pas toujours aidé d'avoir des écoles. Mais ce qui fait African Parks, c'est qu'elle ferme le parc aux populations locales. Et les populations locales, souvent, elles sont dépendantes des ressources du parc pour leurs besoins de subventions, de substances, subsistance.
Donc, oui, pour se nourrir.
Oui, voilà, pour créer leur maison, pour le bois, pour le charbon, pour le petit gibier. Il y a beaucoup de en fait, il y a beaucoup d'activités qu'on dit de la pêche. Ça, tout ça est considéré par African Parks comme du braquonnage aussi.
Et alors, et donc, quand on lit votre livre, on est quand même. Enfin, moi, j'ai été saisie à plusieurs reprises, parce que vous avez recueilli des témoignages où, en effet, des gardes d'African Parks prennent des braconniers sur le fait. Et c'est extrêmement violent comme répression.
Oui, oui, oui. Non, en fait, dans un parc en Zambie où j'étais à l'initiative d'African Parks, c'est elle que, donc finalement notre relation s'est restaurée un peu. J'ai pu interviewer le PDG et j'ai pu aller dans un parc accompagné par African Parks. Et dans ce parc, donc choisi par African Parks, donc on dirait que c'est un des parcs dont ils sont le plus fiers. Là, j'ai moi-même enquêté aussi. Et j'ai parlé à d'anciens éco-gardes. Et ils m'ont raconté comment ils ont torturé des braconniers présumés quand ils ne veulent pas dire, révéler où est la viande qu'ils ont
chassée
ou leurs armes. Ils font des tortures horribles qui vont vraiment, au bout de 5 minutes, tout le monde avoue, même des choses.
Fait,
oui, oui, voilà. Donc, ils disent eux-mêmes que sans doute, ils ont torturé des innocents aussi.
Et ça, oui, ça... vous parlez de la Zambie, mais dans votre livre, en tout cas, il y a des témoignages dans beaucoup de parcs.
En RDC, il y a aussi, en RDC, il y a un éco-garde qui m'avait dit, un ancien qui m'avait dit, qui avait pris sa retraite très récemment, dans le parc, il n'y a pas les droits de l'homme, donc c'est nous les maîtres, c'est nous qui décidons ce qui se passe. Et ils apprennent ça aussi de leurs instructeurs, qui sont parfois français, qui peuvent être israéliens, sud-africains. C'est vraiment ils apprennent qu'ils sont en guerre. Ils sont en guerre contre les braconniers. Et les braconniers, c'est très important de le souligner, je pense, c'est souvent les pêcheurs. Hein, ce sont tous ceux qui font quelque chose d'illégal. Ce sont des braconniers aux yeux d'African Parks. Et ils peuvent subir un traitement très agressif, très, très violent.
Alors que ce sont les populations locales qui vivaient parfois historiquement dans ces parcs.
C'est pas seulement ceux qui chassent les éléphants, ceux qui chassent les cornes des rhinocéros, c'est aussi des petits braconniers, des petits...
Oui, du quotidien.
Oui, oui, oui.
Et alors, la conservation a un prix quand elle est pratiquée dans un contexte hostile. C'est le cas dans le parc du W qui s'étale sur 3 pays, le Burkina Faso, le Niger et le Bénin. Le 8 février 2022, dans la partie béninoise au nord du pays, donc la violence a surgi.
L'annonce a été faite mercredi soir par l'ONG sud-africaine qui gère le site.
C'est avec un profond regret que nous vous informons que le 8 février, une équipe de rangers a été prise en embuscade dans le parc national du W au Bénin. Le bilan provisoire fait état de plusieurs morts ainsi que des blessés. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement pour améliorer la sécurité dans la région.
Selon African Parks, 5 gardes forestiers et 1 soldat des forces armées béninoises ont été tués. 10 d'autres personnes ont été blessées. Le parc national du W se trouve dans le nord du Bénin. Il s'étend sur les territoires burkinabés et nigériens voisins, une région confrontée à une menace djihadiste grandissante. La surveillance s'est d'ailleurs accrue ces 2 derniers mois. La lutte antiterroriste figure parmi les priorités de l'exécutif béninois.
Voilà, et en juillet 2024, un attentat terroriste a à nouveau fait 12 morts, dont 5 gardes du parc. Mais malgré cela, African Parks continue à gérer ce parc du W. On peut quand même leur rendre cet hommage, parce que sinon, avec ces terroristes de partout, je pense qu'il n'y aurait plus du tout de protection maintenant. Est-ce que c'est leur rôle ?
Oui, je ne sais pas s'il faut leur rendre hommage, parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en danger des personnes qui ne sont pas du tout formées pour se battre contre des terroristes. Donc... on l'a vu, on l'a entendu, il y a des morts, ce sont des gens, ce sont des gardes forestiers. Ils apprennent à se battre contre des braconniers qui sont souvent des locaux. Et là, ils se battent contre des terroristes, des djihadistes lourdement armés. Moi, personnellement, je pense que ce n'est pas leur rôle. Et oui, ça peut mener à des massacres.
Et alors, vous dites dans votre livre que le Bénin a délégué la frontière dans le nord du pays avec le Burkina Faso à African Park.
Le contrôle de la frontière, j'ai parlé à des sources qui m'ont confirmé que c'est eux qui gardent, bon, là où il y a le parc, là où le parc est limitrophe au Burkina Faso ou au Niger, c'est eux qui de fait contrôlent les frontières. Ouais.
Alors, comment protéger la biodiversité en Afrique, même si la méthode African Parks est souvent présentée comme la meilleure solution, et nous en avons parlé un peu, il y a quand même quelques limites, et surtout, il y a d'autres approches possibles. Nous en parlons dans un instant, mais d'abord, je vous propose un petit tour en Colombie. On va changer de continent avec Bomba Estéreo et son titre, mais pas ça, sur RFI.
Y baila hasta el amanecer. Quiero que sepas, conmigo te vas y de viaje no vas a volver.
Sin tiquetes de regreso y sin planearlo muy bien. Nada de andarnos despacio, vamos al espacio volando esta vez.
Y cuando estemos arriba, nadie nos va a detener. Baby, no veo la salida, yo creo que aquí me quedé.
Du Colombien Bomba Estéreo, un titre que vous pouvez retrouver comme beaucoup d'autres dans la playlist de RFI disponible sur vos plateformes préférées.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Nous parlons des enjeux de la conservation de la nature en Afrique avec le journaliste Olivier Van Beemen qui a enquêté pendant 4 ans sur l'ONG African Parks qui gère 23 parcs nationaux dans 13 pays du continent. Et ce n'est qu'un début car en octobre dernier, Peter Fearnhead, le PDG d'African Parks, a dévoilé lors du sommet annuel de Concordia à New York une initiative d'$1 milliard pour la conservation à travers l'Afrique. On l'écoute.
That commitment of $1 billion is a,
L'engagement d'un milliard de dollars montre que nous savons ce qu'il faut faire. Nous savons que nous avons une décennie devant nous. Pas même une décennie, car nous parlons maintenant de 6 ou 7 ans avant que l'échéance de 2030 ne soit atteinte. Et pour garantir que près de 30% de la planète soit sous une forme ou une autre couverte par la nature, l'ampleur du défi doit être à la hauteur de l'ampleur de l'action. Et c'est ce qu'est African Parks, une organisation qui se rend sur le terrain et fait le travail. Avec $1 milliard, nous savons ce que nous devons faire d'ici à 2030 pour accroître l'impact de l'organisation. Il s'agit donc d'un engagement envers les gouvernements africains, envers les communautés locales qui vivent autour de ces parcs. Et c'est un engagement envers la communauté internationale. C'est un appel à la communauté philanthropique mondiale pour qu'elle soutienne cette initiative, car nous savons que nous pouvons faire la différence. Nous avons 22 parcs, mais nous pouvons en faire 23, nous pouvons en faire 24, nous pouvons en faire 30. Et si nous pouvons en faire 30, nous pouvons aller au-delà de 30. C'est ce que nous devons faire. C'est un impératif moral de changer d'échelle. Nous ne pouvons pas nous contenter de notre situation actuelle, car c'est ce que la nature et l'impact sur la nature exigent de nous aujourd'hui. En tant qu'African Parks, nous ne pouvons faire ce que nous faisons que parce que nous avons des relations avec des gouvernements qui nous disent « Nous sommes engagés dans cet objectif, nous avons besoin d'aide ». Nous ne pouvons pas le faire seuls. African Parks, venez nous aider. Nous avons 12 gouvernements africains qui nous ont dit qu'ils avaient besoin d'aide. Nous voulons nous mettre en route et remplir nos obligations vis-à-vis de la communauté internationale. Ainsi, ces 12 gouvernements, en s'engageant auprès de nous, et par notre engagement réciproque auprès d'eux, disent que nous sommes sur la bonne voie. Nous voulons agir, nous voulons faire bouger les choses. Et je pense que si chaque gouvernement, que ce soit en Afrique ou ailleurs, veut être en mesure de concrétiser cet engagement, il doit s'engager à agir. Et l'action coûte de l'argent. Il faut donc que des fonds soient alloués à ceux qui font la différence sur le terrain.
Olivier Van Meemen, African Parks a donc de bons jours devant elle.
Oui, j'ai vu qu'en interne, maintenant, Peter Fearn a mention 30, mais en interne, ils ont même pensé à 40 parcs, 50 parcs. Ils ont des filiales maintenant. Les parcs moins grands, moins prestigieux sont sous gestion de filiales comme Noé en français. Donc, c'est presque
d'ambition.
Comme une multinationale. Mmh. C'est la croissance avant tout.
Bonjour Sergio Lopez.
Bonjour. Bonsoir Anne-Cécile.
Vous êtes en ligne avec nous depuis Strasbourg, dans l'Est de la France. En 2015, vous avez fondé Wildlife Angel pour protéger, vous aussi, la faune africaine. Alors, en quelques mots, quelle est votre activité aujourd'hui ?
Mais aujourd'hui, nous continuons la mission entreprise en 2015, c'est-à-dire que nous sommes présents auprès des rangers, puisque notre travail, c'est précisément d'accompagner les rangers, de renforcer leurs compétences et de les rendre plus opérationnels face aux menaces existantes. Et donc, nous sommes en ce moment plus particulièrement orientés sur la Namibie et le Cameroun, mais je dirais, donc, on a quand même d'autres objectifs également dans d'autres pays africains.
Alors, quel regard portez-vous sur African Parks ?
Alors African Parks, ben, c'est un petit peu comme notre ami journaliste, donc Olivier. Je les ai découverts il y a quelques années sur le terrain. Au départ, je les ai vus essentiellement au Malawi, un petit peu en Zambie. Et puis rapidement, j'ai découvert, donc parallèlement à nos activités, leur développement pour atteindre aujourd'hui 22 parcs. Également, alors au départ, ils étaient plutôt dans des lieux anglophones. Et grande était ma surprise quand je les ai vus arriver donc en Centrafrique, au Bénin en particulier, au Tchad, où je me suis rendu compte qu'effectivement, plus rien ne les arrêtait. Et voilà, donc ils mettaient en avant donc ce développement fort qui m'a surpris. Et ce sont des gens que je suis depuis quelques années.
Mais en même temps, vous dites qu'ils obtiennent de bons résultats. Alors, excepté la taille de vos structures, qu'est-ce qui vous différencie ?
Ah, ça, c'est une excellente question. La taille de la structure est incontestable, bien évidemment l'enveloppe financière également, mais ça mis de côté, tout nous différencie. La doctrine essentiellement, puisque je crois que c'est le point essentiel d'une activité, la doctrine d'emploi, donc la doctrine d'existence de Well Enough Angel est complètement à l'opposé de celle d'African Parks. C'est-à-dire que ces gens-là, vous avez dit une phrase tout à l'heure qui m'a fait sourire, quand ils parlent de business approach pour la conservation, pas du tout. En fait, la conservation est un moyen pour eux de faire du business. Moi, je le dis clairement. La conservation, ils s'en foutent. S'ils avaient trouvé une autre idée, ils l'auraient prise. La conservation, mettre en avant cet étendard qui attire quand même énormément les bailleurs de fonds et les donateurs, c'est quelque chose qui leur sert à faire du business. Donc ça, c'est leur doctrine. Alors que nous, tout notre travail, donc notre mission est orientée auprès de la protection, de la conservation de la faune sauvage. Et pour ce faire, nous avons mis deux conditions en place. Et tout à l'heure, donc, l'intervention d'Olivier était très intéressante par rapport à ça. C'est que dans un premier temps, nous respectons scrupuleusement le régalien de chaque pays africain. C'est à chaque pays africain que de gérer son patrimoine faunique, de flore, etc. Ce qui n'est pas le cas d'African Parks grâce ou à cause de la gestion déléguée, de la délégation de gestion, pardon. Et deuxième point, les populations locales. Bien évidemment qu'en termes de communication, de temps en temps, ils parlent des populations locales. Je crois que dans l'ouvrage que vous mettez en avant, il y a des exemples, il y a des anecdotes qui sont très précises par rapport au réel comportement des troupes d'African Parks sur le terrain. Et nous, on part du principe que ce n'est pas en écartant et en faisant de la conservation forteresse qu'on va protéger la faune de demain.
Oui, parce que si African Parks s'en va, par exemple, vous qui avez une bonne connaissance du terrain, ce n'est pas durable, en fait, cette gestion. C'est-à-dire, s'ils s'en vont et qu'ils n'ont pas démarré cette stratégie de conservation, en tout cas impliqué les communautés locales dans cette stratégie de conservation, ça ne va pas tenir.
Il n'y a aucune transmission chez eux. Donc, ils vivent en autarcie, en vase clos, comme vous l'avez bien expliqué tout à l'heure. Alors que normalement, tout doit être travaillé dans le cadre de la transmission. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, un exemple très concret, quand on travaille au renforcement des compétences de nos rangers, on met en place également donc, des actions managériales, des actions pédagogiques pour faire en sorte que d'ici quelques mois, voire quelques années, les équipes locales soient complètement autonomes. C'est comme ça qu'on s'en sortira. Et certainement pas en mettant une chape de plomb sur une zone et en la gardant jalousement pendant 20 ans.
Merci beaucoup Sergio Lopez pour votre témoignage. Je rappelle le nom de votre ONG Wildlife Angel. Olivier Van Bemmen, on arrive à la fin de cette émission. Tenir compte des connaissances des populations locales et les intégrer dans la protection de la biodiversité, c'est évidemment clé pour la durabilité.
Oui, on dirait que c'est une évidence, mais c'est un des grandes plaintes des populations aussi. En fait, African Parks organise des cours de sensibilisation des populations locales. Donc, c'est les populations qui doivent apprendre de African Parks comment ils doivent vivre avec ces animaux, avec lesquels ils vivent souvent depuis des générations, depuis des dizaines d'années, des siècles. Donc c'est ça, cette sensibilisation à sens unique. African Parks ne veut pas apprendre d'eux. C'est African Parks qui dicte comment vivre avec ces animaux sauvages.
Oui, alors que finalement, les populations locales qui vivent là depuis très longtemps savent cohabiter. Et puis, il y a quelques semaines, nous étions au Sénégal avec François Porcheron, avec plus de 70 porteurs de projets africains qui défendent la biodiversité avec et pour les communautés. Et eux nous expliquaient à quel point c'est difficile, en tant qu'Africains, de défendre leur travail et d'obtenir des financements, alors que pourtant, je le répète, c'est la stratégie la plus durable. Donc voilà, African Parks à suivre. Il y a des bonnes choses, mais il y a aussi beaucoup de choses à critiquer. Merci en tout cas pour cette enquête, Olivier Van Bemmen. Je rappelle le nom de votre livre, Au nom de la nature, enquête sur les pratiques néocolonialistes de l'ONG African Parks. Et il y a deux livres à gagner. Donc, on va dire, Caroline Fillette est aux manettes. Elle attend vos mails. voilà, donc adressez votre mail à c'estpasduvent@rfi.fr. On va faire simple. Les deux premiers mails qui arrivent dans notre boîte gagnent chacun un livre. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à réagir donc à nos émissions sur les réseaux sociaux ou par mail. Merci à Caroline Fillette donc pour la préparation, à François Porcheron pour la réalisation. Prenez soin de vous, des vôtres et du monde. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure. Et dans une minute, c'est le journal sur RFI.